Bonjour et bienvenue en 2017. Comme à lundi 2 janvier, tous nos vœux de bonheur et la santé, bien sûr. Au programme de votre grande table aujourd'hui, l'auteur de Peut-on prévoir l'avenir ? L'économiste essayiste Jacques Attali dialoguera dans la deuxième partie de l'émission avec l'historien François Hartog de l'EHESS, le père des régimes d'historicité, répond ce mois-ci aux questions de la revue Esprit qui ouvre l'année avec un numéro de janvier sur les nouveaux prophètes. Comment rouvrir les futurs ? À retrouver après le journal de Bruno Cadenne. Mais d'abord, une semaine culturelle largement consacrée à la seconde rentrée littéraire de l'année, avant les romanciers Daniel Pénac demain et Geneviève Brisac jeudi. On commence avec un coup de cœur de la grande table, Les Voix de la Nuit d'Eugène Green chez Robert Laffont. Tout homme est un mystère, certains plus que d'autres. L'écrivain et cinéaste est notre premier invité, tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Eugène Green, il y a du Balzac dans ce nom et une ambition qu'on aurait tort de réduire à peau de chagrin. Lui, l'amoureux des mots, ce rigoriste de la diction qui a rejeté sa langue biologique et adopté le français comme l'enfant qui se choisit un père de substitution dans son dernier film, Le Fils de Joseph. Celui, cinéaste, metteur en scène et écrivain, revient avec un roman, Les Voix de la Nuit, chez Robert Laffont. Après la bataille de Roncevaux en 2009 et l'inconstance des démons en 2015, il retrouve le Pays Basque et signe un nouveau polar métaphysique où se confronte mystères et réalités. Eugène Green, bonjour.
Bonjour.
Vous avez noté la liaison ? Non ? Vous l'avez pas entendu ma liaison ?
Si.
Mystères et réalités. Avec vous, je vais faire très attention jusqu'à midi et demi, sinon vous me tapez sur le bout des doigts. Eugène Green, en qui ou en quoi croyez-vous ?
C'est une vaste question. J'ai une croyance spirituelle, donc je crois... Je crois à travers ma tradition culturelle, donc je crois en Dieu, et puis je crois en l'art aussi comme moyen d'élever l'homme.
Les Voix de la Nuit, chez Robert Laffont. Pitch, comme on dit en anglais, après des études à Paris, Patchy revient s'installer au Pays Basque, dans sa ville natale de Saint-Sébastien. Il y croise par hasard son ami d'enfance, Machi, à deux doigts de se suicider, ne parvenant pas à lutter contre une sorte de fatalité, un passé trop lourd à porter, des forces aussi obscures que non identifiées qui l'empêchent de vivre. Ensemble, ils vont revenir sur les lieux de ce crime intime, dans la maison de vacances de leur enfance, et affronter leur fantôme. Pour bien ouvrir cette émission, je vous propose, Eugène Green, de nous lire un extrait de votre roman qui paraît cette semaine chez Robert Laffont.
Le mur de végétation et l'eau s'offraient placidement à ma contemplation, tel que je les avais vus tant de fois avant, mais de ce que j'avais vu d'incompréhensible et de terrifiant par sa violence, il ne restait aucune trace. Pourtant, la présence de cet homme avait été aussi concrète que la mienne et d'autant plus convaincante que, contrairement à Magdalena, pour lui, ma mémoire ne comportait aucun modèle. Comme un être de chair n'aurait pu se retirer à travers la broussaille épaisse sans produire beaucoup de bruit et un mouvement du feuillage, cela voulait dire que, comme la jeune fille dont j'avais vu la forme à l'endroit même où je me tenais, cet homme n'avait pas de corps. Soudain, je sentis que quelque chose en moi était terriblement menacé, et j'éprouvais une peur plus profonde que ce qu'avait provoqué la possible approche d'une bête, ou même la vision de l'homme mutilé sur la rive en face. Je partis, me dirigeant rapidement vers la maison. Et sur le chemin, je réussis à préciser ce que c'était qui était en danger. C'était la raison, Dieu tutélaire du monde moderne, dont l'adoption comme socle de vie est censée marquer le passage à l'âge adulte.
Et vous, Eugène Green, quelle place vous donnez à votre raison ?
Je fais une distinction entre la raison et l'intelligence. La raison, c'est une construction artificielle de la civilisation occidentale qui remonte à Aristote, en passant par saint Thomas d'Aquin et les Jésuites, et en aboutissant au siècle dit des Lumières. Et c'est quelque chose qui n'a aucun rapport direct avec l'homme, ni avec le monde, ni avec la spiritualité. Et je fais une distinction donc entre la raison et ce que j'appelle l'intelligence, qui est quelque chose qui est une forme de pensée logique, mais qui part des instincts, qui part du cœur.
Comme Machi, l'un de vos personnages dans cet ouvrage, Eugène Green, comme un ralentisseur, on sent qu'il y a ce temps qui nous empêche parfois d'avancer. Nos passés nous hantent toujours, plus ou moins consciemment. Le vôtre, quel est-il, votre passé? Vous l'observez toujours avec nostalgie?
Nostalgie, non, mais je sens que le passé est présent. Et le passé, donc, c'est un... C'est quelque chose qui nourrit le présent, c'est quelque chose d'essentiel au présent et qui permet d'aller vers un avenir. S'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent et donc il n'y a pas d'avenir possible.
La raison, l'intelligence, la spiritualité, la religion, le passé, le présent et peut-être le futur. On a déjà en quelques mots croisé certaines de vos influences, de vos thématiques récurrentes, de la religieuse portugaise à la communauté universelle. Dans presque tous vos films comme dans vos romans, la dimension spirituelle voire religieuse est en effet centrale, Eugène Green. Il est pourtant d'époque de tout laïciser. Vous, votre cinéma, vos écrits, vous avez choisi que ça ne passerait pas par cette laïcisation un peu forcée du monde. Il faut toujours aujourd'hui, d'après vous, continuer à consacrer une place au spirituel, à l'immatériel.
Oui, je pense que il faut pas, peut-être il faut déjà ce mot laïcité, laïque, ce sont des mots pièges un peu qui posent beaucoup de problèmes en France. La laïcité, c'est une doctrine politique qui est plutôt positive dans la mesure où dans le monde actuel, il est impossible qu'il y ait une religion officielle puisqu'il y a des personnes de croyances différentes qui sont mélangées dans tous les états en fait du monde, ou presque. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais la laïcité en France, en fait, ça devient une religion d'État. Ça devient... C'est l'interdiction de toute expression spirituelle, en fait. Puisque l'expression spirituelle... La réalité de la spiritualité, c'est quelque chose qui dépasse toute religion. C'est quelque chose, finalement, d'universel. Mais comme c'est quelque chose qui dépasse, justement, la raison, on a besoin d'images et de métaphores pour y arriver, pour s'en approcher. Et donc, c'est la fonction des religions, en fait, des traditions religieuses. Donc, moi, je suis la tradition religieuse de ma culture, mais ça va vers quelque chose que quelqu'un peut atteindre à travers une autre tradition religieuse.
La laïcité, aujourd'hui, c'est un peu une forme d'athéisme ou d'incroyance institutionnalisée pour vous, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est l'athéisme, l'incroyance comme religion d'État. J'ai dit parfois comme une boutade, mais qui a un fond de vérité, que la France est le seul pays avec la Corée du Nord où l'athéisme est une religion d'État.
Vous n'avez pas dû vous faire que des amis en disant ça.
Mais déjà...
pas beaucoup d'amis.
J'ai des amis, heureusement, mais pas que des amis.
Le spirituel, c'est tout ce qui n'est pas visible, c'est peut-être l'évidence. Écoutez cette bande-annonce d'un film qui ne vous laissera pas indifférent, d'un cinéaste que vous adorez.
Ce qui est magnifique, c'est que pour rassurer les gens, il ne suffit de nier l'évidence.
Quelle évidence? On est en plein surnaturel, rien n'est visible.
Qui est-ce donc qui s'amuse à tourner en dérision l'humanité?
Le diable, probablement.
Je proclame la destruction! Tout le monde peut servir à détruire.
Qu'est-ce qu'il y aura après?
Le diable, probablement.
Priez, priez pour que tu ressuscites, pour que je te serre encore une fois dans mes bras, que je t'embrasse comme avant.
J'étais mort?
C'est toi que j'aime, Michel. Lui, c'est autre chose, pas un véritable amour.
Quoi alors?
Le diable, probablement.
Vous n'aurez jamais de meilleur ami que moi. Et laissez-moi vous en donner la preuve.
Allez-vous-en. Foutez le camp avec votre argent.
Nous voulons faire entrer le christianisme dans la vie moderne.
Il faut évoluer, vivre avec son temps.
Je le dégueule, votre temps.
Extrait du Diable probablement de Robert Bresson, sorti en 77, une fable écologiste et citoyenne où l'on note aussi l'engagement du cinéaste contre ce grand gâchis planétaire, sur cette entreprise de démolition du monde, comme il le disait, sur notre indifférence aussi face à cela, sur une musique de Philippe Sard quand même, le frère du producteur Alain Sard, compositeur de musique de film, Eugène Green, le Diable probablement, tout est sa faute.
Le Diable. Le diable, je ne sais pas si je crois au diable. Je pense que c'est une façon commode de mythifier le mal. Donc ça, c'est comme toute métaphore dans la spiritualité. Ça sert à quelque chose. Ça sert à pouvoir penser, envisager des choses qui sont autrement, qui dépassent notre cadre de pensée habituel. Mais je ne sais pas si je n'arrive pas à envisager le diable comme un être agissant. Par contre, la présence du mal dans le monde qui est évoquée dans le film de Bresson. Bon, évidemment, j'y suis très sensible aux mêmes choses, à la destruction du monde par l'homme, à la destruction même de l'humanité à l'intérieur de l'homme. Et tout ça est lié à un refus de la spiritualité.
Dans votre livre, ce roman, Les Voix de la Nuit, qui vient de paraître chez Robert Laffont, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de dieu omniprésent, mais il y a des fantômes qui ressurgissent du passé. Il y a quand même un père, le père Lard de mémoire, si je prononce bien, qui a grandi à bonne école puisqu'il a été chez les jésuites et qui est très important pour vos deux héros. C'est quand même un roman qui parle beaucoup de cette camaraderie masculine. Ces deux garçons ont grandi ensemble, ils ont fait leur classe ensemble, ils ont découvert l'amitié, les premières amours aussi ensemble. Et ils se recroisent une dizaine d'années après dans leur ville natale. L'un, Machi, donc, est habité par une sorte de mal-être existentiel dont il n'arrive pas à définir la cause ni les sources. Et son ami, Pachi, va l'aider dans une sorte de voyage initiatique à retrouver un peu les causes de ce mal. Alors, qui sont ces fantômes que vous faites ressurgir dans ce roman, Eugène Green ?
Disons, pour moi, un fantôme, c'est un vestige d'une énergie personnelle, d'énergie d'un être qui n'a pas pu rentrer dans le mouvement du monde. En fait, c'est une énergie qui reste à cause d'une violence ou d'une frustration. Ces fantômes, à la fois, ça représente des êtres dont la vie s'est terminée de cette façon, avec ce manque qui les empêche de rentrer dans le cycle du monde, le cycle de mouvement du monde. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, des fantômes politiques, puisqu'ils sont liés finalement à la violence qui fait partie de l'histoire politique du Pays Basque. Donc c'est à la fois quelque chose de métaphysique, si on veut, et d'universel, et en même temps quelque chose de très spécifique qui est une manière d'évoquer la violence que le Pays Basque a subit en fait depuis 2000 ans.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a reçu depuis cette rentrée déjà deux cinéastes, Rebecca Stotowski et Olivier Assayas, qui nous ont parlé de leurs fantômes de cinéma présents dans leurs deux films sortis cet automne en France. Vous avez choisi ces fantômes de les faire apparaître dans ce roman, Les Voix de la Nuit, Eugène Green. Pourquoi ? Pourquoi les formaliser ? Pourquoi leur donner forme, vie, incarnation presque à travers des mots dans ce roman ?
Parce que, pour moi, les fantômes font partie de l'existence. Et là, c'était une façon je pense que, effectivement, je suis très sensible aussi aux lieux. Et donc, les lieux comportent des présences qui sont le résultat de tout ce qui s'est passé dans les lieux. Et donc dans le roman, donc ces présences fantomatiques tournent autour d'une maison en fait au Pays Basque Nord, Et c'est une, disons que des prisons peuvent être bienveillantes et positives ou bien maléfiques. Et justement, les personnages vivants du roman souffrent. Bon, surtout Machi, mais en fait, ça a eu des répercussions sur d'autres personnages. Et même Pachi, quand il revient dans la maison, il est aussi, il redevient sensible à ses présences. Et donc, c'est une façon de montrer l'interaction avec l'environnement dans lequel on vit, dans les lieux dans lesquels on vit, mais aussi une façon d'évoquer la présence du passé historique. Et en particulier dans un pays comme le Pays Basque, où il y a une violence continue, en fait, depuis l'arrivée des Romains.
Vous en avez vu, vous, des fantômes? Vous avez senti leur présence?
Et les senti, oui, j'ai parlé des fantômes dans un livre sur le cinéma qui s'appelle Présence. Mais moi, je n'ai jamais vu de fantômes. Pour moi, les fantômes se manifestent, enfin, ces présences sont toujours manifestées par lui. Ou par simplement un sentiment qui dépasse les sens habituels. C'est-à-dire que c'était comme si je voyais une forme visible, mais il n'y avait rien de visible. Mais oui, j'ai été dans des lieux où j'ai senti la présence de fantômes, mais c'est toujours lié à un lieu. C'est pas, je ne croise pas des fantômes en me promenant dans Paris, mais c'est toujours dans des lieux précis, des lieux fermés, en fait.
Il n'y en a pas dans ce studio?
Non.
Bon, tant mieux. L'écrivain cinéaste Eugène Green est notre invité aujourd'hui, ce midi, jusqu'à midi et demi, le Pays Basque. On imagine que c'est parce que vous avez senti aussi cette présence, ces présences sur ce territoire que vous vous y êtes autant attaché. Un deuxième roman qui s'inscrit au Pays Basque aujourd'hui, et puis un nouveau film, un documentaire, Faire la parole, qui raconte le Pays Basque à travers sa langue, qu'un écrivain enfant cachait comme une chose laide, un écrivain exilé politique, une langue régionale, générationnelle, festive ou politique, parlée ou chantée, l'une des plus anciennes d'Europe, dans les voies de la nuit qui se passent aussi au Pays Basque. Donc, des deux côtés de la frontière, vous n'avez pas francisé les noms de vos personnages, ni ceux des lieux qu'ils traversent. Et vous ouvrez d'ailleurs le roman par un cours précis de prononciation des noms basques à l'intention de vos lecteurs. Vous avez dit d'ailleurs qu'on existe à travers une langue, que c'est la langue qui construit notre vision du monde extérieur et traduit notre intériorité. C'est pour ça que les langues, y compris régionales, sont aussi importantes pour vous?
Oui, toute langue est essentielle aux gens qui la parlent. Et d'ailleurs, des langues sont régionales seulement parce que ce sont des langues qui n'ont pas d'État. Mais le basque était là avant, longtemps avant que la langue française n'existe ou la langue castillane. Oui, c'est très important pour le, par exemple, dans le documentaire que vous avez évoqué, qui n'est pas encore sorti en salle, Faire la parole, les personnages principaux sont quatre jeunes, dont la langue, trois du Pays Basque Nord et un du Pays Basque Sud, dont la langue maternelle est le basque, ou la, en tout cas, la première langue est le basque, et donc, qui voit le monde à travers cette langue, mais il ne peut pas avoir le même rapport au monde que quelqu'un dont la langue maternelle est le français ou le castillan, puisque cette langue est considérée comme quelque chose de... C'est un peu presque comme la laïcité en termes de spiritualité, c'est-à-dire on veut que les langues dites régionales restent dans la sphère privée, tandis qu'une langue, ça concerne tout aspect de l'existence.
Et dans vos romans, dans vos films aussi, on retrouve cet engagement pour la diversité des cultures et des langues minoritaires, comme l'artiste Ben, suisse et occitan à la fois, qu'on avait rencontré pour la Grande Table lors de son exposition au musée Mayol, et qui disait qu'en défendant cette culture occitane et l'ethnisme en général, il savait qu'il allait choquer le milieu jacobin de l'art contemporain, et que c'était aussi important pour lui. La richesse des langues et des accents, en français ou en occitan, le chanteur percussionniste gascon André Mainviel nous le rappelle depuis longtemps. Il poursuit quant à lui son projet Suivez l'accent, une sonothèque des accents de la francophonie qu'il compile, car en France, nul n'est censé ignorer la Loire, dit-il. France Culture, comme un premier lundi de janvier, il est midi 22.
En France, nul n'est censé ignorer la Loire. C'est un truc que j'ai trouvé pour expliquer Languedoc et Languedoc. Et que la syntaxe ne se construit pas de la même façon. Et donc ça a à voir avec la musique. Quand j'improvise, que je fais des trucs qui vont dans les coins, j'ai l'impression d'aller de passer quelques bouts de ce monde-là, quoi, de ce monde qu'on n'entend pas à la radio, qu'on n'entend pas, et qui est là, qui existe. C'est le monde d'aujourd'hui aussi.
One time, ça va de l'extime au next time. Intime, compagne, je vais par l'infini montagne. De ce qui fête l'amour et l'amitié, au pluriel familier du singulier, de ce qu'une pensée joue d'altérité. Quand elle marche au cime des Pyrénées, intime, one time, ça va de l'extime au next time. Intime, compagne, je vais par l'infini montagne. Moi, better do, wow, better let it you, wow, come on, one of them. De ce qui vient du dedans, du dehors, de ce qui vous pousse à réfléchir encore, au pourquoi des choses qui s'évaporent, paradoxe de la boîte de Pandore. Intime, one time, ça va de l'extime au next time. Intime, compagne, je vais par l'infini montagne.
Entre jazz, funk et musette, un album sorti fin septembre, ça s'écrit 1 comme le chiffre, trait d'union. Time, en anglais. Intime, one time, c'est le titre qu'on vient d'entendre, comme le chante André Mainviel avec son complice Bernard Luba. Des concerts partout en France et même à Genève le 12 janvier. C'était donc le musicien André Mainviel.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et notre invité est Eugène Green, le plus français des Américains. Il filme, il écrit, il récite, voire déclame, né en 47 à New York, arrivé en France en 69. Pourquoi autant de rejets? C'est toujours la question qu'on vous pose, Eugène Green, mais c'est vrai que c'est difficilement compréhensible pour les États-Unis, ce là-bas que vous refusez absolument à nommer, la barbarie parfois, vous l'appelez comme ça, ce nouveau monde qui vous est visiblement tellement étranger.
Oui, parce que c'est dire que les gens qui sont là-bas, ce sont des êtres humains, je les respecte en tant que tels, même quand ils votent pour cette espèce de personne.
Lui non plus,
qui
vous ne
de...
le nommez pas.
Voilà.
Il s'appelle Donald
mais,
Trump.
Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de langue. Et donc, c'est vraiment lié à ce dont on parle ce matin. Ce qu'ils utilisent, l'idiome sonore qu'ils utilisent, c'est pas une langue, c'est pas de l'anglais, c'est un moyen de communication. C'est un peu comme le sabir qu'on utilisait autour de la Méditerranée comme moyen pour faire des transactions commerciales.
C'est pas la langue de Shakespeare.
Oui, mais ça fait partie de la Grande-Bretagne, c'est autre chose. La Grande-Bretagne, c'est un pays bizarre, mais c'est un pays qui a une langue. Mais je ressentais, en tout cas personnellement, je ne peux parler que pour moi, je ressentais l'absence d'une langue comme quelque chose de, voilà, comme un drame existentiel. Et donc, il fallait que je trouvasse une langue et voilà, j'ai choisi la langue française.
L'américain, c'est un idiome sonore qui sert essentiellement à faire des affaires. Les relations entre les gens de là-bas sont des liens commerciaux, avez-vous dit Eugène Green. Rien ne sauve ce pays, même pas son cinéma pour vous ?
Non, pour moi, c'est ce qui se fabrique là-bas et qui remplissent toutes les salles de cinéma du monde, c'est pas vraiment du cinéma, c'est des bougeons, pour traduire le mot qu'eux, ils utilisent pour leurs produits, les movies.
Et sa littérature?
Moi, je ne suis pas trop sensible à ce qu'on... Pour moi, littérature, avec ce mot, c'est un oxymore. c'est-à-dire avec ce mot comme adjectif, littérature barbare, c'est un oxymore.
Alors le paradis des écrivains est peut-être ici, en France, en tout cas, tel avez-vous décidé.
Je viens de parler avec Nathalie Sarraute.
Elle est morte.
Quand aura lieu son enterrement ?
Vous profitez de la fête, n'est-ce pas, Violette ?
Tout à fait. Dites-moi, Oscar, on est à la closerie ou au Flore ?
On est au paradis des écrivains. Venez, Violette, je vais vous présenter à Marcel Proust.
Je vais pouvoir l'interviewer. Mais entre nous, ces derniers temps, il n'est plus ce qu'il était.
Un dialogue entre Maria de Medeiros et Mathieu Amalric dans votre dernier long métrage, Le Fils de Joseph, sorti en salle l'an passé et qu'on peut désormais retrouver en DVD chez Blackout. Derrière le vernis du monde culturel français, si on gratte un peu, Jeanne Green, qu'est-ce qu'on trouve ? Vous aviez déjà opéré une critique assez vive de ce petit monde dans Le Pont des Arts, un de vos précédents films. Aujourd'hui, comment se porte notre monde culturel pour vous, Jeanne Green ?
Oui, ben je pense qu'il y a un décalage entre la culture et puis le monde officiel de la culture et de la production culturelle. Et que, bon, il faut chercher la réalité de la culture sous les institutions et sous ça. Ce qui est représenté dans cette scène n'a rien à voir, bien sûr, avec la littérature. Mais elle existe toujours, la littérature.
Ça reste un monde bouillonnant pour vous, foisonnant. Il se passe encore beaucoup de choses aujourd'hui en France, dans le monde culturel.
Oui, mais il faut les chercher. Puisque...
Il faut gratter, oui. C'est ça. Merci beaucoup, Jeanne Green, d'être passée par nos studios. Les Voix de la Nuit, c'est votre dernier roman qui vient de paraître chez Robert Laffont. Merci d'avoir ouvert cette rentrée 2017 avec nous.